Bonsoir. Les habits de notre démocratie craquent de toutes parts. Les élections ne font plus recette. La défiance est générale envers toute autorité et tout pouvoir. Face à cette crise, de nouvelles pratiques politiques s'imposent qui associent et consultent l'ensemble des citoyens. On nous dit qu'en démocratie, les décisions sont prises en fonction de la volonté du peuple. Mais les procédures de vote existantes, actuelles, permettent-elles de connaître la volonté du peuple? Je vous propose de regarder si les procédures de vote qui nous sont proposées sont démocratiques et si les résultats représentent bien la volonté du peuple. Il me semble que c'est une question que l'on ne se pose pas. La majorité décide, mais voilà. Alors, mon invité, Éric Benchberg, statisticien, c'est important, s'est intéressé à cette question. Et je vais lui demander de se présenter et pourquoi il s'est intéressé à cette question. Et question qu'il va aborder en statisticien et non en politique. Bonsoir Éric.
Bonsoir, donc oui, je m'appelle Éric Benchberg. En fait, je suis chercheur à l'INRAE et je travaille sur des insectes. Et on peut se poser la question du lien entre les insectes et les procédures de vote. En fait, c'est vrai que je suis biologiste, mais je suis statisticien de formation. Et je me suis intéressé à cette histoire de procédure de vote vue du point de vue des statistiques. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est un vote? C'est juste estimer la volonté du peuple pour mettre en place des démocraties. Et donc, ça m'a questionné et j'ai creusé ça plus en détail. Et l'autre raison pour laquelle je me suis intéressé à ça, c'est juste comme nous tous ici, c'est que je suis un citoyen. Et je voulais creuser ça et comprendre qu'est-ce que c'est que ces procédures de vote que nos démocraties nous offrent, est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un peu creusé cette histoire-là et c'est ça dont on va parler aujourd'hui.
Voilà, et tu es aussi conférencier pour Sciences pour tous 06. Tu peux nous présenter cette association?
Alors, c'est une association de 1901 qu'on a mis en place avec un ami de l'école des mines à Sophia Antipolis pour offrir à toutes les municipalités des Alpes-Maritimes et le Var également, des conférences sur plein de sujets différents. Quand je dis municipalité, il y a des mairies, il y a des médiathèques, il y a des maisons d'arrêt aussi, et toutes les thématiques scientifiques sont abordées par des conférenciers bénévoles de manière régulière, hebdomadaire, voilà.
D'accord, ben on donnera le site et les références en fin d'émission. On nous dit que les démocraties, la démocratie, c'est la volonté des peuples. Mais comment on estime cette volonté des peuples?
Ben, tout le monde le sait, ce qu'on fait, c'est qu'on vote. Et le problème, c'est de savoir, est-ce que quand on fait une procédure de vote, est-ce qu'on estime correctement ce que veut le peuple? Et en fait, très souvent, ce n'est pas le cas. Quand j'ai commencé à creuser ça, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. On peut prendre des exemples, si tu veux. Par exemple, tout le monde pense que ce qu'on appelle le suffrage majoritaire simple, ça fonctionne bien, c'est-à-dire un système dans lequel les électeurs se déplacent, ils mettent dans l'urne un bulletin dans lequel ils mettent la personne qu'ils préfèrent ou l'option qu'ils préfèrent. Et ça, depuis la Révolution française, depuis plusieurs siècles, on sait que c'est un système qui marche bien s'il n'y a que deux candidats, mais s'il y en a plus que deux, ça ne marche pas. Donc déjà, ça, c'est étonnant. Personne ne m'avait jamais dit ça, moi, avant que je creuse ça. Et pourquoi ça ne marche pas? Et puis, qu'est-ce qu'on voudrait comme solution électorale idéale? Et qu'est-ce qu'on peut proposer donc, comme scrutin qui soit plus objectif pour estimer la volonté du peuple?
Alors, tu peux nous expliquer pourquoi ça ne marche pas?
Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a un exemple très célèbre qu'on trouve, qui a été développé par le CNRS, qui est un exemple fictif, en fait, dans lequel on regarde trois grandes villes du département de l'Allier. Il y a Moulins, Moulis et Vichy. Et on offre différentes procédures de vote aux électeurs. Soit le scrutin majoritaire simple. Chacun va aux urnes et met la ville qu'il préfère. Soit un système uninominal à deux tours. C'est ce qu'on a pour les élections présidentielles en France, c'est-à-dire que les électeurs se déplacent deux fois. La première fois, ils mettent la ville qu'ils préfèrent. Puis les deux villes qui ont reçu le plus de voix s'affrontent dans un deuxième tour. Soit un vote à l'envers, c'est-à-dire que les gens vont aux urnes et mettent la ville qu'ils préfèrent le moins. Et puis après, on compte le nombre de villes, la ville qui a reçu le moins de voix. Soit un système uninominal à deux tours, mais à l'envers. Pareil que pour les...
Ça existe, ça?
C'est démocratique, on pourrait l'imaginer. Soit un système où, sur le bulletin, on met les trois villes et puis on met des notes par rapport à celles qu'on préfère. Et on peut démontrer très simplement que les trois systèmes de vote, les cinq systèmes de vote dont je viens de parler, amènent à des résultats différents. Ce qui est complètement étonnant. C'est-à-dire que la procédure avec laquelle on va interroger le peuple influence
le résultat.
Ce qui est quand même inquiétant pour un fonctionnement démocratique. Ça, c'est une première raison pour laquelle ça ne marche pas. Il y en a une autre aussi, qui est un peu plus technique, et on peut un peu la présenter, c'est-à-dire que les préférences de vote des électeurs dans une nation se répartissent, les statisticiens parlent de loi normale, cette espèce de courbe en cloche, où on a le centre, où il y a beaucoup d'électeurs, puis plus on va vers les extrêmes à droite ou à gauche, il y en a de moins en moins. Et donc, quand on est un candidat, qu'on veut avoir beaucoup de gens qui votent pour soi, on va faire une offre politique qui soit le plus au centre possible pour essayer d'attirer le plus de voix possible. C'est pour ça que, par exemple, que le discours de l'extrême droite en France s'adoucit progressivement au cours des années. Il y a d'autres raisons pour lesquelles ça conduit à ça. Donc tout ça, c'est théorisé, c'est bien expliqué. Et ça veut dire que, tout à l'heure, on l'a vu, la procédure de vote influence le résultat. Et bien, en même temps, la procédure de vote influence l'offre politique des candidats. Donc ça biaise complètement le système électoral qui est derrière tout ça. Et c'est inquiétant.
Et donc, quelles que soient les procédures de vote, parce qu'on a des procédures de vote qui sont différentes pour les élections locales, où on peut avoir un scrutin de liste. Quand on est sur des élections nationales, c'est une uninominale à deux tours. Et là, ce que tu démontres, c'est que quel que soit le système de vote, ça a le même résultat, le même mauvais résultat.
Alors, il y a un biais tout le temps. Tout à l'heure, on parlera de quelle serait une procédure de vote idéale. Et toutes les procédures de vote qu'on nous propose ne sont pas idéales au sens de ces critères-là. Et donc oui, malheureusement, toutes les procédures de vote qu'on nous offre dans nos démocraties présentent des biais et qui influencent la manière dont nos démocraties fonctionnent, oui.
Et alors, tu dis qu'il y a un électeur médian. Mais du coup, on n'est plus dans le vote, là. On n'est plus dans la politique, même, je dirais. Ben, je ne sais pas, parce que l'électeur médian, il y en a autant d'un côté que de l'autre, ça joue politiquement, ça a un impact sur le résultat, sur la démocratie.
Médian, ça ne veut pas dire qu'il y en a un peu partout. Le médian, non, c'est un terme statistique qui veut dire c'est la tendance électorale la plus représentée dans la population. Il faut imaginer cette courbe en cloche, la courbe de Gauss, la courbe normale que les statisticiens utilisent tous les jours. La majorité des électeurs sont plutôt au centre. Et même, c'est plus compliqué que ça, parce qu'imaginons que le centre soit en compétition avec la droite. Un électeur de gauche qui n'aime absolument pas la droite va voter au centre aussi. Donc tout le monde, comme ça, alimente le centre, et puis le raisonnement fonctionne dans l'autre sens aussi. L'électeur médian, c'est celui qui est le plus représenté dans la population, et c'est celui qui va faire basculer le vote en sa faveur. Et donc ça influence, c'est ce que je disais, l'offre électorale.
Oui, parce que les candidats, du coup, se calculent pour pouvoir toucher cet électeur-là.
Alors, il y a ça, mais c'est plus compliqué que ça, parce que, regardez, nous, Européens, quand on regarde les élections aux États-Unis, il y a les démocrates et les républicains, pour nous, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Pourquoi ? Parce que les extrêmes sont éliminés. On veut, quand on est candidat, on veut se mettre le plus au centre possible, parce que c'est là où on va attirer le plus d'électeurs possible. Et en tout ça, ça a été bien théorisé après la Seconde Guerre mondiale, et on peut montrer que, globalement, ça conduit nos dirigeants à faire des politiques de conduite d'un pays qui sont globalement assez médiocres pour éviter les extrêmes, que ce soit en termes de santé, de transport, d'éducation, etc., pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre. Donc on cherche à taper au centre et ça fait quelque chose qui est très doux, j'allais dire, sans prendre en compte des extrêmes éventuels.
Mais il y a des élections où on a pléthore de candidats. Je ne sais plus, des européennes où il y avait 14 candidats. Le résultat est aussi peu fiable par rapport à notre problématique qui est de réellement représenter la volonté du peuple.
Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Toutes les procédures de vote, sauf une exception ou deux dont on parlera tout à l'heure, sont globalement biaisées, aboutissent à des résultats qui ne sont pas représentatifs de la volonté du peuple. Mais il faut voir que derrière, il y a, depuis la Révolution française, plus de 2 siècles de théories mathématiques qui ont été développées. D'ailleurs, ici, en fait, je suis là pour témoigner de cet effort de recherche, pour essayer de comprendre quelle serait la structure électorale, la procédure de vote qui serait idéale, et on sait que celles qui nous sont proposées dans nos démocraties ne sont pas objectives, non, malheureusement.
D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on va en reparler après, mais quand même, on a une problématique d'adhésion au vote aussi. Et est-ce que cette problématique d'adhésion au vote, qui fait qu'il y a de l'abstention, qui fait que les gens ne se reconnaissent pas, enfin, je ne sais pas, ce vote intervient là, de procédure, ce biais joue.
Je pense que les électeurs lambda, dont nous faisons tous partie, ne sont pas trop au courant du fait que ces procédures de vote ne sont pas objectives. Mais je pense qu'on devine un peu quelque part que ce qui nous est proposé ne correspond pas vraiment à ce qu'on voudrait. ça c'est mon interprétation personnelle, je suis pas un sociologue quoi, mais, et je pense que du coup les électeurs deviennent effectivement de plus en plus méfiants de ce qu'il leur est proposé. Ça a été intéressant par exemple lors des dernières élections présidentielles avant, juste un peu avant, il y a eu la primaire populaire qui a été construite sur une procédure de vote dont on reparlera, parce que c'était intéressant, et qui montre que les membres de nos sociétés démocratiques deviennent de plus en plus méfiantes de ce genre de procédure qui nous est offerte, quoi, et du discours politique plus généralement.
Et alors, toi tu dis que la procédure elle joue sur l'offre, que l'offre joue sur la procédure en gros, mais moi j'imaginais que les gens étaient méfiants par rapport à l'offre, et en fait est-ce qu'ils sont aussi méfiants par rapport à la procédure?
Je pense que oui.
Mais c'est en fait inconscient ou le citoyen lambda, il a conscience de ça?
Alors,
parce que moi, avant de te rencontrer, je n'avais pas du tout conscience de ça.
Non, je ne pense pas que l'électeur standard qu'on croise dans la rue, dont nous sommes tous partis, sache que les procédures de vote qu'on nous offre sont biaisées. Je ne pense pas que ça soit su, mais je pense qu'il y a une méfiance de ça. Le simple fait de réfléchir, par exemple, au système du vote uninominal à deux tours... qu'on est les seuls, je crois, en France à avoir ce système-là pour élire les présidents de la République, déjà, est compliqué, c'est un système compliqué. Pourquoi doit-on se déplacer deux fois? On reparlera de ce problème-là, parce qu'il est intéressant, et ça conduit, je pense, l'électeur qui réfléchit un peu à ce qui nous est proposé, à s'interroger. C'est comme ça que j'ai commencé cette réflexion-là, à s'interroger sur ce qui nous est offert et pourquoi ça biaise le système. Je reprends l'histoire de cette phrase, quand même, qui m'a choqué quand je l'ai découverte. « La procédure de vote influence le résultat ». C'est quand même énorme, ça. Et c'est même, il y a des petits mathématiciens rusés qui ont pris cette phrase dans l'autre sens, en disant, attendez, j'aimerais bien que ce résultat soit, qu'on ait ce résultat-là. Est-ce que je pourrais pas trouver la procédure de vote parfaitement démocratique et transparente qui permettrait d'aboutir au résultat escompté? C'est quand même inquiétant d'un point de vue du fonctionnement de nos démocraties. Donc je pense que les gens, sans avoir les détails techniques qui sont derrière, effectivement, sont assez méfiants des procédures de vote qui nous sont offertes par nos démocraties, je pense, oui.
Tout est joué avant, quoi.
C'est plutôt, je poserais la question dans l'autre sens. C'est presque un discours paranoïaque. Je ne crois pas être paranoïaque, mais on peut le présenter comme ça. Nos dirigeants connaissent tout ce que je dis maintenant, c'est sûr. C'est des théories qui existent depuis la Révolution française. Pourquoi on nous propose des procédures de vote qui sont connues comme étant biaisées, alors qu'il en existerait d'autres qui soient plus pertinentes? Et donc ça, petit à petit, ça contribue au doute de la parole politique et peut-être du fait qu'il y ait une adhésion de moins en moins forte des électeurs au système électoral qu'on nous propose.
D'accord. Alors, on se retrouve après un peu de musique. Thank you. Bonsoir, nous nous retrouvons pour un alter regard sur les procédures de vote avec mon invité Eric Weinsberg. Alors, on a vu en première partie d'émission que, contrairement à ce que l'on pense, les procédures proposées ne permettent pas de connaître la volonté du peuple. En démocratie, on applique la volonté du peuple. Bon, alors, est-ce qu'il existe une procédure idéale pour bien connaître la volonté du peuple? Est-ce que ça existe et est-ce que ça pourrait être mis en place facilement?
Alors, la question, c'est qu'est-ce que ça serait une procédure idéale, quoi. Mmh. Et donc, ça a été théorisé également. Et une procédure idéale, ce serait une procédure qui repose sur trois grands principes. Le premier principe, il s'appelle le principe d'unanimité. Et dans le principe d'unanimité, si tout le monde préfère un candidat, alors ce candidat doit être élu. Ça nous paraît tous logique. Hein.
Là, c'est facile.
C'est facile, mais ce n'est pas ce qu'on fait. Reprenons les élections présidentielles les dernières. On s'est retrouvé avec un deuxième tour avec Macron face à Le Pen. Il y a plein de gens qui ont voté pour Macron, pas parce qu'ils préféraient Macron, mais parce qu'ils voulaient voter contre Le Pen. Donc, ce n'est pas si simple d'avoir une procédure d'unanimité où les gens, celui qui est élu, c'est celui qui est préféré. Le deuxième principe, c'est ce qu'on appelle le principe d'indépendance aux alternatives non pertinentes. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que l'arrivée d'un nouveau candidat modifie le classement. Si on prend par exemple les élections présidentielles de 2002, je ne sais pas, tout le monde doit se souvenir de ça, que Jospin a été éliminé au premier tour et qu'on s'est retrouvé avec un duel entre Chirac et Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des candidats qui étaient proches, Jospin, Chevènement et Taubira, qui ont détourné à leur profit des voix et qui ont fait chuter Jospin, et il ne s'est pas retrouvé au deuxième tour. Donc on ne veut pas ce genre de choses, quoi. C'est pour ça que maintenant, la majorité des partis dans nos sociétés démocratiques font des primaires avant les élections pour qu'il n'y ait qu'un seul dauphin, un seul candidat qui soit présenté par chaque parti. Et qu'on n'ait pas ce problème de, d'indépendance de dépendance aux alternatives non pertinentes. Le troisième principe qu'on veut respecter, c'est ce qu'on appelle le principe du vote utile ou du vote stratégique qu'on veut éviter. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'un candidat aime pas qu'un électeur, pardon, n'aime pas un candidat, mais en déteste un autre. Et il va voter pour celui qu'il n'aime pas pour éviter que celui qu'il déteste vraiment soit le dicton qui dit la volonté du peuple s'est exprimée. En fait, c'est totalement faux. On s'exprime pas, on vote contre des gens pour ne pas avoir des gens qu'on n'aime pas. Donc voilà, on veut éviter ce genre de choses. Donc ça, on a trois principes. Unanimité, indépendance aux alternatives non pertinentes et le problème du vote stratégique ou vote utile.
Donc, l'idéal, ce serait un système qui prendrait en compte ces trois principes et qui soit construit de manière à plus avoir de biais dans ce cas-là.
Exactement.
Parce que l'unanimité, on a l'exemple de l'Europe, où il y a des sujets qui sont à l'unanimité. Et on dit toujours, on n'y arrive pas. Donc... Est-ce que l'unanimité, elle ne représente pas... Le truc, c'est la volonté du peuple et la majorité. Parce qu'en fait, c'est ça, quoi. La volonté du peuple, du coup, dans ce que tu dis, ce n'est pas forcément la majorité.
Non, parce que les électeurs ne votent pas forcément pour les options qu'ils préfèrent. Ils font ce qu'on appelle le vote stratégique, c'est-à-dire qu'ils vont voter contre ce qu'ils préfèrent moins. Pour éliminer le candidat ou l'option qu'ils n'aiment vraiment pas. Donc ça n'exprime pas la volonté du peuple, ça. Donc il y a un vrai problème et un vrai biais ici. Et on peut trouver des procédures électorales qui permettraient de suivre ces principes-là.
Et donc, c'est vrai que ce qui me paraît important dans ce que tu dis, que pour nos électeurs, les auditeurs, ça me paraît pour les électeurs
aussi,
important
oui.
Aussi, c'est qu'en fait, la majorité, ce n'est pas la volonté du peuple. Et la majorité, ça n'est pas forcément, ça ne représente pas la volonté...
Exactement, oui, ça, c'est une majorité, oui, mais pas une majorité du choix des électeurs, c'est une majorité d'une volonté de faire chuter les plus mauvais, par exemple. Voilà, c'est ça, et donc c'est un problème démocratique, parce qu'on va se retrouver avec des sociétés qui sont dirigées par des gens qu'on ne préfère pas, mais qui semblent moins mauvais, moins médiocres, d'autres qu'on préfère encore moins. Quoi. C'est pas satisfaisant pour l'esprit, pour le pilotage de nos démocraties.
Et sur l'Europe, où il y a plein de sujets où il faut l'unanimité, on dit que ça bloque. Donc, c'est l'unanimité, on ne pourrait pas retenir l'unanimité comme système. Surtout.
Mais c'est encore assujetti à la procédure de vote qu'on met en place pour estimer cette unanimité ou estimer cette volonté du peuple. Et on en a parlé tout à l'heure, la procédure en question est sujette à caution et biaisée par rapport à sa capacité à estimer la volonté.
Alors, est-ce qu'il existe, parce qu'après on verra pourquoi on ne le met pas en place, sans doute, mais est-ce qu'il existe une procédure de vote qui permet de bien reconnaître, effectivement, la volonté du peuple ?
Alors, les mathématiciens, comme tu peux l'imaginer, depuis des siècles, proposent des alternatives à nos systèmes électoraux. Il y a plein de méthodes qui ont été proposées. Avant de rentrer dans le détail d'une d'entre elles, il y a quelque chose qu'on pourrait dire, c'est que prenons l'exemple des élections présidentielles en France. On a 2, 3, 4 mois de débats électoraux très riches, avec tous nos candidats qui s'affrontent, et des débats dans tous les sens, et les gens se font des opinions ou pas. Le jour de l'élection arrive, et l'électeur se trouve avec un bulletin, il met un nom. C'est très réductionniste, ça. Face à une richesse du débat électoral, il est obligé de mettre un nom. Donc ça va pas, je trouve, et je suis pas le seul à le penser. Ce qu'il faudrait, c'est quand même pouvoir exprimer dans l'acte de mettre un bulletin dans une urne, toute la richesse du débat électoral. Alors comment on peut faire ça ? Ça serait d'avoir un bulletin dans lequel on ne met pas un nom, mais il y a plusieurs noms, et on les classe, par exemple, on les note. Et donc ça permettrait de faire s'exprimer toute la richesse électorale dans l'acte de voter. Et beaucoup des procédures électorales qui ont été proposées pour essayer de rendre le système moins biaisé sont des procédures qui sont fondées sur le fait qu'on classe toutes les offres électorales, tous les candidats, par exemple, par ordre de préférence, soit une note, soit une grille semi-quantitative, comme on dit, c'est-à-dire très bien, assez bien, passable, médiocre, enfin, etc. Et là, ça permet d'exprimer une richesse du débat électoral et ça rend la procédure de vote, on rentrera dans le détail d'une d'entre elles tout à l'heure, beaucoup plus riche et moins biaisée, effectivement, aux besoins qui permettent de s'affranchir du problème du vote utile ou du vote stratégique dont on a parlé tout à l'heure, ou de l'alternative non pertinente.
Oui, parce qu'on dit aussi, on parle de vote utile, au premier tour on choisit, au deuxième on élimine. C'est ce qui se dit.
Dans les présidentielles en France, oui, mais on a... Les élections de 2002 ont bien montré que ce n'était pas un système correct. En 2012, il y a eu le problème de Bayrou, qui, quand on fait tous les calculs de manière correcte, aurait dû être élu, et c'est pas lui qui est passé. C'est Sarkozy, si je ne me trompe pas. Oui. Donc le système uninominal à deux tours, 2017. Ça, on sait... 2017, oui, pardon. On sait que c'est un système qui ne fonctionne pas. Et donc, de toute façon, tous les arguments du type « au premier tour, on fait ça, puis au deux... » Non, c'est des faux arguments. La procédure en elle-même est biaisée, elle ne permet pas à la volonté du peuple de s'exprimer correctement et de manière non biaisée.
Et alors, elle est encore plus biaisée sur les votes où il y a des circonscriptions. Parce que comment on choisit, par exemple, les législatives. C'est à deux tours, uninominal à deux tours, mais sur un territoire qui est déterminé. Et après, ça devient un vote national. Donc, comment on pondère tout ça?
Bon, je ne suis pas un politologue, hein, vraiment, je préfère le dire. Je ne suis qu'un pauvre biologiste statisticien. Mais là, on est dans un système majoritaire où il y a une assemblée, l'Assemblée nationale, dans laquelle toutes les tendances s'expriment. On n'est pas dans le système caricatural de l'élection présidentielle où il y a un long débat, une longue bataille électorale et on a le candidat unique qui sort et qui dirige un pays pendant plusieurs années. Donc dans le cas majoritaire, sur liste, là, on a quelque chose d'un peu plus équilibré, mais quand même... La procédure de vote elle-même est sujette à caution, ne permet pas d'exprimer de manière non biaisée la volonté du peuple. On se retrouve avec les mêmes biais dont on parlait tout à l'heure, quand même.
Et oui, le vote utile. Donc, oui, moi, je voudrais revenir quand même sur l'unanimité, parce que tu dis qu'il y a trois points. Hein. L'unanimité, la dépendance aux alternatives non pertinentes. Bon, l'unanimité, on comprend bien. Les alternatives non pertinentes, c'est quoi ? Si je veux pas, celui-là, et je veux celui-là.
Alors, c'est l'histoire de Jospin, Chevènement et Taubira en 2002. C'est-à-dire qu'on va éliminer des candidats qui sont proches, enfin, on va donner des voix à des candidats qui sont proches de quelqu'un qu'on préfère, et on va détourner des voix au profit de... C'est comme ça que Jospin a été éliminé au premier tour. Donc ça pose un problème, quoi. Et c'est comme le vote stratégique. Le vote stratégique, on va voter contre quelqu'un pour faire... Transposons ça dans le monde de l'athlétisme. Imaginons qu'on a une course de 110 mètres haies et que certains coureurs vont s'accrocher aux shorts de certains autres pour les faire chuter et c'est celui qui aura été moins accroché par les autres qui va gagner la course. Qui accepterait ça dans le monde de l'athlétisme ? C'est ce qu'on a pourtant dans nos systèmes électoraux, c'est-à-dire qu'on va empêcher certains candidats de gagner pour en promouvoir d'autres qui sont moins bons ou meilleurs mais qui ne sont pas celui qu'on préfère. Je ne sais pas si je suis clair, mais il y a quand même... La clé de cette discussion, c'est comment permettre aux électeurs d'exprimer leur choix, leur désir, de manière non biaisée pour aboutir à la personne ou l'option qu'ils soient élus in fine.
Oui, mais alors tu limites le nombre de candidats. Et là, c'est une manière de biaiser aussi le choix.
Non. On peut trouver un système électoral dans lequel il y a pas un nombre infini de candidats, mais un nombre fini de candidats, dans lequel on peut s'arranger... par la procédure de vote elle-même, à éviter les votes stratégiques, les votes utiles, les alternatives non pertinentes et tous ces problèmes dont nous avons parlé. Ça existe. Et je répète tout à l'heure, mais on rentrera dans le détail plus tard, c'est construit sur le fait que ce qui est le bulletin qu'un électeur met dans une urne ne possède pas qu'une seule option ou qu'un seul nom, mais permet de classer toutes les options. C'est là la richesse de la procédure, des procédures qui fonctionnent mieux en fait.
Alors, on se retrouve après un peu de musique.
Accord à côté sur...
Don't wanna sound full of myself or rude, but you ain't looking at no other dudes, cause you love me. So you think about a chance, you find yourself trying to do my dance, baby, cause you love me, oh. So when we try, things slow down because you weren't used to how fast we touch. Then we locked eyes and you was in there and I was gonna cheer your ass up. I know that I'm carrying on, never mind if I'm showing off. I was just front. You know I want you, babe. I'm ready to bet it all. Unless you don't care at all. But you know I want you. You should stop running, babe. Girlfriend, you could be. You're still sneak and you look at me. Girl, I love it. Then you give your other girl a shove. Tell you're gonna come and ask how it was. She's gonna love it. Whoa, whoa. So then we try and think slow down because you weren't used to how fast we touch. Then we gonna tear your ass up. I know that I'm carrying on. Never mind if I'm showing off. I was just running. You know I want you, babe. I'm ready to bet it all. Unless you don't care at all. You know I want you. You should stop running, babe.
Bonsoir, nous nous retrouvons pour un alter regard sur les procédures de vote avec mon invité Eric Winchberg. Nous avons vu dans les deux premières parties que les procédures proposées ne permettent pas de représenter la volonté du peuple et qu'en fait, il semblerait qu'il n'y a pas de bonne procédure. Sauf que peut-être que tu peux nous présenter d'autres procédures que celles que l'on connaît et qui seraient peut-être pas bonnes, mais au moins moins mauvaises,
oui.
Non ?
Alors. Donc, encore une fois, moi, je suis, disons, ici pour témoigner de recherches intenses depuis deux siècles. Ça date de la Révolution française. Donc, beaucoup de gens se sont penchés là-dessus dans plein de domaines différents et ont proposé des procédures de vote alternatives. Je peux en présenter deux. La première, je la trouve plutôt rigolote. On peut démontrer mathématiquement que si on met du hasard dans la procédure de vote, ça marche mieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, mettre du hasard ? Il faut expliquer ça. Ça s'appelle le vote. Le scrutin stochocratique. Stochocratique, c'est un mot valise qui combine le mot démocratie et stochastique. Stochastique, c'est un terme technique de mathématicien pour dire il y a du hasard. Alors comment ça marche ? Les électeurs vont aux urnes, mettent un bulletin dans l'urne sur lequel ils marquent le candidat qu'ils préfèrent. Quand tout le monde a voté, on prend l'urne, on tire au hasard celui qui est vainqueur. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tirer au hasard celui qui est vainqueur, c'est quand même bizarre. Mais en fait, c'est pas stupide parce que si un candidat est préféré par beaucoup d'électeurs, quand je vais tirer son nom au hasard, je vais avoir plus de chances de le tirer. Et là, ce n'est pas une bonne idée d'avoir des votes alternatifs ou des votes stratégiques parce qu'on risque de faire élire quelqu'un qu'on n'aime pas. On va vraiment mettre la personne qu'on préfère. Alors évidemment, s'il y a un candidat qui est très médiocre et que seul un électeur a voté pour lui, on risque de tirer son nom et ça, ça ne va pas quand même. Mais c'est intéressant d'un point de vue mathématique de voir qu'on peut essayer de creuser aussi dans ce sens-là. Donc ça, c'est la première méthode. Il y en a d'autres.
Bon, dans les petites communes, en fait, il y a pas de liste, des toutes petites communes, les gens mettent les noms qu'ils veulent. Et après, quand même, on ne tire pas au sort à l'intérieur, on regarde celui qui a été le plus cité. Donc, il n'y a pas le hasard, mais il y a quand même cette volonté d'avoir un choix pas dicté par l'offre.
Alors que dans la méthode dont je viens de parler, il y a vraiment... ce qui a beaucoup d'importance, c'est de mettre du hasard. Parce que si on met du hasard, ça évite que des gens mettent dans l'urne un bulletin sur lequel ils marquent un nom de quelqu'un qu'ils n'aiment pas vraiment. Parce que cette personne risque d'être élue. En fait, ça a une valeur théorique, parce que de mettre du hasard, ça a des propriétés mathématiques derrière intéressantes. Personne n'utilise ce vote-là, heureusement, parce que ça serait dangereux. Mais c'est intéressant à considérer pour essayer de sortir des biais dont on parlait tout à l'heure.
Et pour contrer ça, le hasard, on le met quand, bon, par exemple, dans la Convention citoyenne, on tire au sort un certain nombre de personnes.
Des représentants, oui. C'est pas la même démarche. C'est pas, c'est, C'est comme dans les jurys d'assises, on va tirer au hasard c'est pas un système électoral en tant que tel, c'est pas le choix de nos dirigeants, de nos pouvoirs publics qui est en jeu à ce moment-là, pas exactement.
Sur les tribunaux, non, mais sur les conventions. Si on reprend la convention qui a eu lieu sur le climat, si Macron avait joué le jeu, c'était bien ce qu'ils ont sorti, censé représenter la volonté du peuple et qui aurait dû être mis en œuvre. Donc, alors que c'était des gens tirés au sort qui étaient candidats à rien.
D'accord.
Donc, on aurait pu considérer que ce qui sort des travaux, c'est quand même la volonté du peuple.
Ok, donc il peut y avoir du hasard. Peut-être que c'est pris en compte, alors je ne sais pas. Pas dans les élections, par exemple, présidentielles dans nos démocraties occidentales.
Une autre
méthode qui fait couler beaucoup d'encre, qui est vraiment intéressante et qui, par ailleurs, a été proposée par des chercheurs français, c'est quand même pas anodin de le signaler, qui s'appelle le vote par jugement majoritaire et qui, pour l'anecdote, a été utilisé en France dans la primaire populaire avant les dernières élections présidentielles. Je ne sais pas si tu te souviens de cette procédure-là avec Taubira, etc. Donc, c'est une méthode qui a plein de propriétés intéressantes que je vais essayer de détailler. Donc, là, on revient sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'électeur arrive aux urnes et met dans l'urne un bulletin dans lequel il va classer toutes les offres. Il ne met pas juste un nom ou une option candidate, il va classer toutes les offres par ordre de préférence, par exemple, à rejeter, insuffisant, passable, assez bien, bien, très bien, excellent. Et les électeurs se présentent une seule fois, on peut faire ça sur Internet, c'est ce qui s'est fait à la primaire populaire. Donc on se retrouve avec plein de bulletins dans lequel les électeurs ont classé les offres. Et donc après, on va regarder ça candidat par candidat. On va prendre le premier candidat et on va regarder parmi tous les électeurs quelle est la proportion de gens qui pensent que ce candidat est excellent. Disons par exemple 5%. Puis après, toujours pour ce même candidat, on va regarder combien de personnes pensent que cette personne est très bien, c'est-à-dire une coche en dessous de excellent. Par exemple 8%. Donc si l'option... La meilleure, c'est 5% et l'option suivante, c'est 8%. La somme des deux, ça fait 13%. Ça veut dire qu'il y a 13% dans la population de gens qui pensent que cette personne est très bien, voire plus. Puis après, on va regarder la troisième catégorie et puis on va cumuler comme ça. À un moment donné, on va arriver à 50% ou plus de 50%. Quand on aura cette option, ça veut dire quoi? Puisque c'est 50% ou plus de 50%, ça veut dire que la majorité des gens, c'est pour ça qu'on appelle ça le vote par jugement majoritaire, la majorité des gens pensent que cette personne est au moins égal à cette option-là, plus, voire plus. Et donc, on va faire ça pour tous les candidats, et on va regarder, pour tous les candidats, quelle est l'option qui reçoit la majorité d'assentiment par rapport à tous les électeurs. Et c'est l'option qui va être déclarée comme étant vainqueur aux élections. Et donc ça a plein de propriétés intéressantes, ça évite assez bien le vote stratégique, ça résiste assez bien aux alternatives non pertinentes. Ça a plein de propriétés mathématiques qui sont encore étudiées, mais qui montrent que globalement, c'est moins biaisé que la majorité des procédures électorales qu'on nous propose dans nos démocraties.
Alors, par rapport donc à la primaire populaire, ça n'a pas du tout été expliqué, le problème, ce qui s'est passé, parce que du coup, il y a eu beaucoup de débats autour de certains disant que ce n'est pas un vote, c'est un sondage. Et l'autre point, la primaire populaire, l'autre point... c'était qu'il y a des gens qui n'étaient pas candidats et qui ont été quand même... Donc ça peut marcher, on prend...
Qui n'ont pas été
candidats et qui ont quand même été dans le vote.
C'est-à-dire qu'on a offert aux électeurs un moyen de voter pour... Ils pouvaient rajouter des noms qui leur...
Oui, ou même ils étaient mis au départ, oui, des gens qui n'étaient pas candidats et qu'on a... Donc comment on cible quand même vis-à-vis des électeurs, c'est-à-dire qu'il faut quand même être candidat. Ou bien c'est beaucoup plus ouvert.
Il faut être candidat dans le système que je connais, et les électeurs, parmi tous les candidats déclarés, classent ces candidats-là, ce qui permet de savoir, pour chacun de ces candidats, quel est le choix majoritaire représenté pour l'ensemble des électeurs.
Et parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont voté pour des gens qui n'étaient pas candidats, en fait. Donc ça, comment... Il faut que ce soit bien clair au départ, parce que comment on l'évite
jeu, moi, voilà. Quand il y a eu la primaire populaire, moi je m'intéressais déjà à ce genre de problématique, donc j'ai regardé un peu les sites web. Il me semblait que la procédure était quand même claire et bien expliquée. C'est important qu'elle le soit, c'est pas ton avis. Ok. Moi, ça l'est. J'ai trouvé ça clair. Je pense. Alors, je suis pas un grand spécialiste de ça encore, mais je pense que s'il y a des candidats qui se rajoutent, ça fait rien après tout, parce qu'on va pouvoir quand même faire ce mode de calcul pour chacun des candidats et trouver le candidat qui a reçu le choix majoritaire, c'est-à-dire que plus que la moitié des électeurs pensent que ce candidat peut faire ça ou mieux.
Ce qui permet d'être, ce qui est le plus précis, je dirais, c'est de mettre des notes, de classer celui-là,
exactement.
Ou bien de mettre, comme tu as dit, excellent, très bien.
Exactement.
Ce qui marche le mieux, c'est quoi ?
Alors,
un classement.
C'est pareil.
Ou... C'est pareil.
C'est pareil, je pense. Ce qui est important là, dans ma compréhension des choses, c'est que puisqu'on a sur le bulletin tous les candidats et qu'on les classe, on a la base de la démarche. On a un mode de scrutin beaucoup plus riche que de mettre juste un nom sur un bulletin dans une urne, et donc ça permet d'exprimer de manière bien plus riche le débat électoral qui a eu lieu avant les élections, et donc, les affrontements et les partages d'idées. Voilà.
Et ça, c'est possible pour les présidentielles, mais aussi pour les législatives, pour tout ce qui est uninominal. Pas pour un scrutin de liste, mais pour tout, encore qu'on pourrait aussi.
Alors, c'est une excellente question. On peut généraliser la discussion qu'on a, toi et moi, maintenant. Ce que je suis en train de dire maintenant, ça marche chaque fois qu'un groupe de personnes doit décider d'une option parmi plein d'autres. On va tous au restaurant à 20 personnes, tous les amis, et on va décider quel menu on prend. Une procédure électorale doit être non biaisée, et toutes les problématiques dont on a parlé, le principe d'unanimité, etc., la résistance aux alternatives non pertinentes, sont pertinentes. Je suis membre d'un club de sport, je veux élire le président de mon association 1901, ça marche aussi. Évidemment, quand on discute, toi et moi, on prend, c'est normal, comme exemple, les élections présidentielles, parce que c'est primordial dans la vie d'une démocratie. Mais tout ça, ça marche dès lors qu'il y a un scrutin nécessaire, et ça peut être pour n'importe quelle situation où un groupe de personnes doit choisir une option parmi d'autres.
Alors, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, pourquoi on nous propose des procédures qui sont biaisées ? Ils le savent, nos...
Alors, c'est un débat qui m'intéresse beaucoup. Et je répète, peut-être je suis un petit peu paranoïaque, mais je l'accepte volontiers. Évidemment, tout ce que je dis, ça repose sur des mathématiques encore en cours de développement, mais qui sont développées depuis la Révolution française. Donc, tous nos dirigeants savent ça très bien. Faut pas douter de ça. Alors pourquoi dans nos démocraties, c'est pas spécifiquement français, hein, pourquoi nos pouvoirs publics ne nous offrent que des méthodes qu'on sait comme étant biaisées ? Je pense qu'ils le font intentionnellement. Je pense qu'ils le font intentionnellement parce que ça sert leur intérêt. Je vais prendre un exemple, si tu me le permets, auquel je tiens. C'est l'exemple de la prise en compte des votes blancs. Tout le monde sait que les votes blancs sont pas comptabilisés en France. Ils le sont dans d'autres pays, ils le sont en Suisse depuis 2003 par exemple. Si on fait un sondage auprès des Français, il y en a eu un qui a été fait en mars 2017. En mars 2017, c'était avant les dernières élections présidentielles. 86% des Français sont favorables à la prise en compte des votes blancs. Un amendement, a été proposé pour modifier la Constitution française. Cet amendement a été rejeté en juillet 2017. Il se trouve, c'est une anecdote personnelle, il se trouve qu'un jour, je sais très bien quel jour c'était le 25 avril 2019, j'étais fatigué, je suis rentré chez moi, j'ai allumé la télé pour me délasser. Avril 2019, c'était au moment de la crise des Gilets jaunes. C'est important cette date-là. Et j'ai vu un interview d'Emmanuel Macron à l'Élysée qui s'est exprimé et qui a dit « On ne peut pas en prendre en compte les votes blancs parce que c'est le fonctionnement de nos démocraties. C'est pas un choix. Le vote blanc, c'est pas un choix. Il faut que les électeurs fassent un choix. » Je ne suis pas en train d'avoir un discours électoral ici. Je ne suis pas pour ou contre Macron. Ce n'est pas l'objet de notre débat. Mais... les bras m'en sont tombés quand j'ai entendu ça. Premièrement, c'est un choix, le vote blanc. On ne va pas me dire que ce n'est pas un choix. C'est le choix de dire l'offre qui m'est faite ne me convient pas. Et deuxièmement, pourquoi ne pas la prendre en compte ? Il ne me semble pas me tromper en disant que Macron avait proposé ça dans sa campagne électorale, de prendre en compte les votes blancs. Pourquoi je prends cet exemple-là ? Parce que ça montre bien que la procédure électorale et tout ce qui va avec, qui nous est offert par nos démocraties, c'est pas juste tombé du ciel, c'est pas quelque chose qu'on hérite du passé, on peut les changer. Et là, il y a un choix délibéré de ne pas prendre en compte les votes blancs, puis on pourrait trouver d'autres caractéristiques de nos procédures électorales qui a pour objet de faire passer un message ou d'influencer le résultat, que sais-je. Par exemple, ne pas prendre en compte la volonté du peuple de dire les offres électorales qui me sont proposées ne me conviennent pas, je préfère voter blanc. On voit bien qu'il y a un enjeu politique qui est fort dans la démarche électorale elle-même, dans la procédure qui nous est proposée.
Quand le problème aussi, c'est que on a des gens du coup qui sont compte tenu de l'abstention, compte tenu bon du vote blanc. Il faudrait quand même expliquer comment ça pourrait se passer la prise en compte du vote blanc. Mais compte tenu de tout ça, on a des gens du coup qui sont élus avec 25% des inscrits ou des votants. Et donc il faut aussi trouver un système qui permettent ben, que ça se produise plus, qu'on n'ait plus des gens élus avec 25% ou même moins, certains.
Alors, comment prendre en compte le vote blanc? Je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un spécialiste de ça. Ce que je demanderais, juste, je suis un électeur standard dans ma démocratie, je demanderais qu'au niveau parlementaire, on discute de ça, qu'on mette en place une procédure pour prendre en compte le vote blanc ou pas, mais alors expliquer clairement pourquoi ne pas le prendre en compte, qu'il y a vraiment un débat public sur ce domaine-là. Je n'ai pas de solution à proposer, ce n'est pas mon rôle ici, ni mon expertise, mais de fait, on ne prend pas en compte le vote blanc, et je trouve qu'il y a un problème là. Le problème du vote blanc, ce n'est pas le problème majeur, c'est juste, je le prends en guise d'exemple, il y en a plein des problèmes comme ça dans le fonctionnement de nos systèmes électoraux, et je trouve que c'est dommage, et je prends ça comme un fil rouge que je déroule pour montrer que les procédures électorales qu'on nous propose sont pas biaisées par manque de chance. Ils sont biaisés parce qu'on sait qu'elles sont biaisées et on nous les propose parce que ça influence le résultat dans un sens qui favorise probablement notre personnel politique.
Et par rapport à l'abstention, c'est compliqué parce qu'on critique les abstentionnistes. De notre côté, il y a deux problèmes. Il y a l'offre, comme tu dis, donc le vote blanc peut éviter, je ne m'abstiens pas, mais je vote blanc et je montre clairement que tout ce qui est proposé ne me convient pas. Et puis, d'un autre côté, quel est le système qui pourrait inciter plus à aller voter, sachant qu'on prend mieux en compte l'avis de...
Oui, c'est intéressant, cette question, elle est, je trouve, particulièrement intéressante parce qu'elle boucle avec le début de notre discussion qui est... le problème de l'abstentionnisme. Moi, je n'ai pas de solution miracle. Je ne suis pas ni politologue, ni sociologue. Et puis, d'une part, et deuxièmement, c'est une question bien plus générale qui est la crédibilité de la parole politique. À travers la crédibilité des systèmes électoraux qu'on nous propose, c'est bien ça la discussion qu'on a là aujourd'hui. Par exemple, la prise en compte du vote blanc. Je prétends que si les votes blancs étaient pris en compte, peut-être qu'il y aurait moins d'abstention. Les gens iraient aux urnes et dire « je vote blanc » parce que j'ai un message qui est clair à faire passer, l'offre politique qu'on me fait ne convient pas. Après, comment régler ça? Je n'ai pas de solution. Ça nécessiterait un débat public et politique.
On a d'exemples d'autres pays?
Alors, la Suisse, je l'ai dit tout à l'heure, prend en compte le vote blanc. Je ne sais pas comment la démarche démocratique a été mise en place pour ça et le débat a été conduit, mais oui, il y a d'autres pays qui prennent en compte ça. Mais encore une fois, je trouve... C'est de ma faute peut-être, mais je trouve dommage qu'on concentre notre discussion, toi et moi, sur le vote blanc. Pour moi, ce n'est juste qu'un exemple parmi plein d'autres. Quoi.
Ce que j'entends, c'est que, en fait, ce qui manque aussi, c'est un grand débat public, démocratique, sur globalement les procédures de vote.
Absolument.
Et donc, ce débat, il pourrait avoir lieu à l'Assemblée, parce qu'il va falloir une loi. Mais déjà, il pourrait avoir lieu dans les citoyens, je ne sais pas, mais il y a bien quelque chose là à faire.
Alors, je suis d'accord, mais je pousse le pion encore un cran plus loin. Je prétends que si ce débat qu'on a, toi et moi, là maintenant, de dire qu'il faudrait une discussion publique, était mené, il y aurait un abstentionnisme qui diminuerait. Parce que ça rendrait le système démocratique sur lequel on est, nos pays sont fondée de manière plus crédible, avec une parole politique plus pertinente, et peut-être des gens, ils diraient, ah, dans ce cas-là, alors oui, je vais aux urnes et je vais voter. Au besoin, voter blanc, puisqu'on prend cet exemple-là. Donc je pense que oui. En fait, effectivement, là, tu as raison de le faire. La conclusion de cette discussion, c'est il faut que les rouages de nos démocraties, à travers, puisqu'on parle de ça, les systèmes électoraux, soient discutés publiquement, soient mis à plat, probablement. D'autant plus, on parle de ça, qu'il y a des outils théoriques, mathématiques qui sont développés depuis deux siècles maintenant et qui le sont encore maintenant, qui proposent des alternatives plus pertinentes. C'est quand même pas rien. On n'est pas dans une piscine au milieu de nulle part. Là, on a quand même des fondements théoriques solides. Et s'appuyer là-dessus et proposer aux électeurs que nous sommes, d'abord, un débat démocratique et ensuite, à la suite de ça, des procédures électorales qui soient plus pertinentes et qui expriment vraiment la volonté du peuple pour piloter nos démocraties. Je pense que c'est important.
Ben, le problème aussi, c'est que ce qu'on nous propose, on nous le propose au prétexte de la démocratie.
Oui, mais c'est bien c'est ça le problème, quoi.
Oui. Parce que c'est bien ce qu'on nous dit. On a un système.
On nous prétend que c'est démocratique. Oui, voilà. Et oui, on nous prétend c'est démocratique. Aussi. Je dis dans le début de notre discussion que le scrutin majoritaire simple, celui qu'on fait tous au quotidien, quand on va, pas au quotidien, mais très fréquemment, on met dans une urne l'option qu'on préfère et puis on décompte et celui qui a le plus de fois gagne. Personne ne m'a jamais dit, j'ai plus de 60 ans révolus, personne ne m'a jamais dit que ce système était biaisé. C'est quand même bizarre, quoi. J'aurais bien voulu avoir des cours d'instruction civique, surtout qu'on sait ça depuis Borda. Borda, c'est la Révolution française, c'est un mathématicien de la Révolution française. Pourquoi on nous dit pas ça? Je veux dire, c'est quand même, ça m'étonne, ça m'inquiète également, surtout avec nos démocraties vacillantes en ce moment. Et il y a là un endroit important qu'on doit protéger pour avoir un débat public et démocratique, pour mettre ça à plat et essayer de mieux comprendre comment ça marche et proposer aux électeurs, au besoin, en faisant de la formation, peut-être que des procédures qui soient moins biaisées et qui, accessoirement, contribueraient à la baisse de l'abstentionnisme, ce qui est important.
Pour terminer, donc on va donner quelques repères, parce que là, on a ouvert le champ réflexion. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, il faut donner des repères. Donc, tu as des auteurs, des textes à citer, des sites. Je sais que tu as quelques repères à donner qu'on retrouve sur Internet, je suppose.
Alors, je suis évidemment, Dieu merci, j'allais dire, pas le seul sur cette planète à me poser ce genre de questions. Et qu'il y a des... par exemple, tu le soulignes, je rebondis là-dessus, il y a des sites web que je trouve très bien faits, presque de manière ludique, qui permettent de rejouer les élections présidentielles qu'on a vécues en France. Et n'importe qui, en deux, trois clics, peut proposer une autre procédure de vote et voir qu'est-ce que ça changerait. Rejouer les élections 2017, par exemple. Ça permet à chacun des citoyens de se familiariser avec le problème qui est là, de voir qu'est-ce qui peut être biaisé, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme alternative, etc. Alors, j'ai deux, trois sites, je ne sais pas si on peut les fournir
oui,
après.
Oui,
voilà.
Si tu les as, tu peux les donner, non?
Ouais, maintenant, là...
Ouais, d'accord.
Alors, il y en a un qui s'appelle...
Non, mais pas forcément le site, mais des repères, quand on tape dans un moteur de recherche...
Rejouer les élections présidentielles sur Google, je pense, ça doit... Il y en a un qui s'appelle vote.imag.fr, il y en a deux, trois comme ça. Il y en a un qui est www.lacontre-election-en-un-seul-mot.com, etc. Il y en a plusieurs intéressants, je pense. Il y a quelques ouvrages de vulgarisation, notamment, j'en connais un fait par nos amis francophones québécois, parce qu'ils ont eu des problèmes de ce type-là à résoudre dans leur démocratie, également de l'autre côté de l'Atlantique, qui ont le mérite d'être en français, justement. Je peux retrouver les références au besoin. Il y a quelques ouvrages, pas énormément, mais il y en a, de gens qui se posent des questions comme ça. Il y a d'autres ouvrages qui sont plus techniques, qui sont centrés sur la partie mathématique et des sites web également, d'ailleurs, des systèmes électoraux et en quoi sont-ils biaisés et qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme alternative. Oui, il y a pas mal de choses. Si on creuse un peu sur le web, sur Google par exemple, ça, on sort plein d'informations. Même toi, je crois que tu as fait ce travail et tu es tombé sur des sites qui fournissent des informations.
Alors, et on peut redonner Science pour tous 06 quand même, parce que c'est important.
Alors,
parce que moi, je trouve très, très intéressant. Et donc, il pose des bonnes questions.
Absolument.
Et on a des intervenants de très compétents, de très haut niveau, qui peuvent répondre à nos questions. Donc, on peut redonner le site.
Alors, si on va sur Google et qu'on tape Science pour tous 06 et qu'on tape Return, on tombe directement sur le site web de cette association. Je rappelle que c'est une association 1901 qu'on a créé avec un ami de l'école des mines, Patrick Navarre, il faut le citer, je ne l'ai peut-être pas cité tout à l'heure, excusez-moi, c'est un ami, qui offre un panier de, je crois, 80 intervenants, plusieurs centaines de conférences. C'est offert, donc c'est que du bénévolat, c'est non payant, et c'est offert aux municipalités, aux médiathèques, aux maisons d'arrêt. Moi, je fais des conférences en prison, par exemple, là-dessus. Et qui touche tous les domaines scientifiques, physique, biologie, écologie, mathématiques, sciences humaines, etc. Histoire. On a eu une très belle conférence sur la restructuration de Notre-Dame de Paris récemment, par exemple. C'est vraiment intéressant. C'est des conférences qui durent à peu près une heure, incluant la discussion avec le public, réparties sur tout le territoire des Alpes-Maritimes. Et maintenant, on attaque le Var. Maintenant, voilà.
Oui, c'est ça, surtout, c'est qu'on trouve vraiment dans des coins, le plus petit village à 200 habitants.
Même en haute montagne, oui.
Voilà, même en haute montagne, oui. on a ce type de conférence et c'est ça qui est intéressant. Nous, plus localement, il y a Menton, puisque la radio va jusqu'à Menton.
Il y a Menton, il y a Biot, Antibes, voilà. Villeneuve-Loubet, Saint-Laurent-du-Var.
Grasse,
il y a eu des conférences, mais là... pour être honnête avec tout le monde, on a un petit problème de communication. Les gens sont pas trop au courant et ne viennent pas assez nombreux. Donc, Grasse, il n'y avait pas assez de participants. Donc, on a dû annuler. Mais je pense qu'on serait d'accord pour reprendre. Voilà.
Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant.
Oui, et ça fonctionne. Les gens sont satisfaits, posent plein de questions. On voit bien que les gens sont curieux, en fait, de s'ouvrir vers d'autres thématiques. Oui.
Tout à fait. Eh bien, merci, Eric.
Merci
et
à toi.
Alors, vous pourrez réentendre Eric, le 12 octobre à 20h. Merci, au revoir.